Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Et merci d'être là nombreux à l'écoute de votre émission. Nous parlons à présent du projet de stabilisation et des relèvements de l'Est de la RDC, Star Est. Quel bilan on peut dresser aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Pour en savoir plus, nous recevons Madame Brigitte Kapinga-Saouda, coordonnateur général du projet de stabilisation et des relèvements de l'Est de la RDC, Star Est. Madame Kapinga Saouda, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission et joyeux anniversaire.
Hein, merci beaucoup, merci.
Vous avez des questions et préoccupations, les standards sont déjà ouverts, composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Billy Landry-Betou à la mise en onde, Tati Mafoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jonathan Chimanga s'occupe des plateformes digitales. Jody Daniel au micro. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission. Nous allons parler du projet de stabilisation et des relèvements de l'Est de la République démocratique du Congo, Star Est. Un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à hauteur de $250,000. Alors, au regard de la situation sécuritaire dans la partie Est, le projet migre vers d'autres provinces du pays. Alors, nous allons en savoir plus avec notre invitée, Madame Brigitte Kapinga Saouda, coordonnateur général de ce projet Star Est. Madame Brigitte, la première question à savoir, pouvez-vous d'abord nous parler de ce projet? Comment tout est parti et quel est l'état d'avancement de ce projet depuis son lancement?
Merci beaucoup, M. Jody. Merci aussi aux éditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment. En fait, le Star RDC, parce qu'il faudra que les gens s'habituent à l'appeler Star RDC. Au départ, c'était Star Est.
Okay.
C'est le projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Dans sa partie Star Est. Mais aujourd'hui, nous parlons du relèvement de la RDC.
Dans son ensemble.
Parce que désormais, les projets pourra intervenir dans tous les pays selon le besoin. Mais dans sa création, le projet qui a vu le jour en novembre 2023 par la signature de l'accord de financement entre le gouvernement congolais et son partenaire qui est la Banque mondiale à hauteur de $250 millions, comme vous l'avez dit, a commencé en 2024. Et c'est en août 2024 que le projet a été lancé par l'entremise du vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Et c'était fait au niveau des Goma. Ainsi, nous avons mis en place les comités de pilotage du projet. Mais avant ça, il y avait eu déjà les comités provinciaux de suivi et de coordination du projet. Et ces comités se retrouvent dans chaque province. Et le projet a pour objectif spécifique d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de base de communautés vulnérables et sensibles au climat. Mmh. Et deuxième objectif, c'est d'améliorer la réintégration socio-économique des individus sortis des groupes désarmés. Et troisième objectif, c'est renforcer les capacités des administrations au niveau de provinces d'intervention. Et comme je venais de le dire, ce projet a commencé en 2024 avec les activités de terrain. Et ici, quand nous parlons des activités de terrain, nous devions commencer d'abord par la mise en place effective du projet, parce que il y a deux parties des mises en œuvre du projet. Mmh. La première partie, d'abord, ce sont les accords. C'est la mise en place juridique qui est suivie maintenant de la mise en place administrative et technique. Et cette mise en place-là a commencé au début de l'année 2024.
Et toujours à Goma.
Toujours à Goma parce que le projet était basé, donc sa coordination générale était basée dans la ville de Goma, avec les activités dans 5 territoires. Du Nord Kivu, tel que c'était prévu, nous avons les Masisi, nous avons Rutshuru, nous avons Beniville, Beni Territoire et Territoire de Lubero, ainsi que de Walikale. Ça, c'est pour ce qui concerne le Nord Kivu.
Vous étiez aussi en Ituri.
Nous sommes.
Vous êtes en Ituri.
Pas nous étions.
Vous êtes en Ituri également.
Nous sommes en Ituri, oui. Et là nous sommes dans la ville de Bunia. Nous sommes à Djougou, nous sommes à Mahagi et nous sommes à Mambasa.
Okay.
Et nous sommes aussi dans le Sud Kivu. Là nous sommes dans la ville de Bukavu, nous sommes à Kale, nous sommes à Fizi, nous sommes à Mwenga et à Shabunda. Alors donc ça c'était le projet dans sa partie initiale, dans sa conception. Et nous avons pu commencer les activités de terrain de façon...
Mais quand on dit projet de relèvement communautaire, qu'est-ce que cela veut dire, relèvement et tout ça?
Vous savez que ces projets tirent ses origines pour apporter une réponse aux communautés vulnérables qui ont subi les affres de conflits armés. Mmh. Et quand vous le savez, les conflits les conflits qui ont duré dans les temps et qui ont fait énormément de victimes, ce sont les conflits à l'est du pays. Et la population avait besoin de se réinventer, si je peux dire ici les termes. Se réinventer, ça veut dire quoi? Vous savez que quand il y a des conflits armés, la population est obligée de quitter leurs terres, de quitter leur maison, d'aller trouver refuge là où il y a un peu de paix.
Mmh.
Et c'est ce qui s'était passé. Alors, avec le retour de la paix, nous sommes dans les années 2019-2021, quand on a commencé la conception du projet, les populations ont commencé à revenir dans leurs terres, dans leurs anciennes terres. Mmh. Et pour ce faire, ils avaient besoin d'un coup de pouce. Et c'est pour cela que ces projets qui a été demandé par les 3 gouverneurs, le gouverneur du Sud Kivu, les gouverneurs de l'Ituri, le gouverneur du Nord Kivu, qui se sont rapprochés de la Banque mondiale, ils ont demandé à ce qu'il y ait des appuis pour ces communautés-là. C'est comme ça que le projet a vu le jour.
Des appuis pour construire des écoles, des centres de santé.
Les infrastructures, c'est comme ça que nous les appelons les infrastructures socio-économiques de base.
Okay.
Parce que ce sont les infrastructures dont la communauté a besoin. Parce que le besoin vient de la communauté elle-même. Ça peut être une école. Ça peut être un centre de santé, ça peut être un marché, ça peut être un centre polyvalent, ça peut être l'adduction en eau potable. Tous ces besoins-là communautaires, c'est ça ce qui fait partie des activités menées par le STARES.
Les activités génératrices des revenus. Vous avez soutenu aussi les femmes avec
les activités génératrices des revenus, ça c'est un autre volet du projet. Comme je suis en train de dire,
oui,
c'est un projet qui permet à la communauté de se relever. Donc, il y a d'abord la partie communautaire. Et cette partie communautaire, c'est là où nous avons toutes ces infrastructures qui mettent les communautés ensemble. Mais au-delà de cette partie communautaire, il y a la partie individuelle. Et pour la partie individuelle, nous avons mis en place les AGR, les activités génératrices de revenus. Mmh. Et ces activités génératrices de revenus, nous n'avons pas imposé. On ne dit pas, ben, vos communautés aller dans telle filière ou dans telle autre. Nous appuyons les communautés dans ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils savent faire. Je prends un exemple.
Oui.
Je suis vendeuse de tomates. Si je dois appuyer cette vendeuse-là, nous allons l'appuyer. Si elle pense que son activité de prédilection, c'est vendre la tomate, nous allons l'appuyer dans cette activité en lui donnant du cash. Mais il y a aussi une autre partie, en dehors de ces agères. Nous avons aussi les routes de dessertes agricoles. Nous avons toutes les infrastructures socio-économiques de base que nous sommes en train de mettre en place. Dans ces infrastructures, les entreprises qui ont gagné les marchés ont l'obligation de prendre comme main-d'œuvre cette communauté-là. C'est pour lui donner de moyens. Avec ce qu'ils sont payés, c'est aussi une activité génératrice de revenus parce que ça lui donne le moyen pour qu'ils puissent entrevoir à faire autre chose. Et dans l'ensemble, nous avons 147 000 personnes que nous devons appuyer. Et nous avons déjà commencé à appuyer ces différentes communautés parce que les routes sont déjà en cours, beaucoup d'activités sont déjà en cours. Je pense que nous allons y revenir tout au long de cette émission.
Bien, une autre question, de savoir quelles sont les actions qui démontrent que les communautés bénéficiaires sont mobilisées et impliquées dans la mise en œuvre de ce projet.
Il y en a beaucoup. Premièrement, nous avons mis en place les comités consultatifs provinciaux. Ces comités-là sont composés premièrement par les gouverneurs, qui en est le président, ainsi que tous les autres services et les acteurs, tant de la société civile que de toutes les couches de la population. Vous avez les jeunes, vous avez les femmes, vous avez les confessions religieuses, qui
font
sont réunis.
De ces comités-là.
Ils font partie de ces comités.
D'accord.
Et ces comités-là, c'est ces comités qui approuvent les activités des STARES, qui orientent les activités des STARES et qui fait même le suivi sur le terrain pour savoir que ce qu'on nous a donné comme objectif à atteindre, ainsi que les activités envie d'atteindre ces objectifs sont en train d'être menées selon les règles de l'art. Et au-delà de ça, nous avons les comités locaux de développement. Les comités locaux de développement et nous avons aussi les comités locaux de paix et de développement. Donc ce sont deux comités avec lesquels nous travaillons.
Okay.
Toutes les activités des STARES sont entre les mains de ces comités-là. Parce que quand nous faisons l'analyse de besoins de ces des communautés, nous faisons d'abord des consultations publiques. Ça, c'est la première démarche. Il y a des consultations publiques. Après que les communautés se soient décidées sur tel ou tel autre projet, ça rentre sur leur comité local de développement. Et c'est ensemble avec les comités locaux de développement que les actions sont menées. Bien sûr qu'il y a les
Peut-être
entreprises.
Qu'on va établir les priorités.
Absolument. Mmh. On établit les priorités. Ces priorités-là, d'abord, nous commençons par les chefferies ou les groupements. Nous commençons par les groupements. Les groupements établissent leurs priorités. Ça remonte jusqu'au niveau de la province. Et au niveau de la province, nous mettons ensemble toutes les priorités des provinces pour que ça soit maintenant adopté au comité consultatif provincial. Et ces comités locaux de développement et ces comités de paix et de développement, ce sont ces comités qui font les suivis des activités que nous sommes en train de faire sur le terrain. S'il y a, par exemple, nous sommes en train de construire une école ou un marché ou un centre de santé, les comités sont là chaque jour. Ils ont le bordereau quantitatif pour vérifier si ce qui a été marqué dans ces bordereaux
est en train d'être respecté. Est-ce que c'est ça qui est en train d'être exécuté là-bas, oui.
Et donc, pour nous, le Star RDC, c'est un projet de communauté, pour la communauté et par la communauté. Et c'est ça ce qui fait la différence avec plusieurs projets dont la conception peut se faire ailleurs et les communautés sont de bénéficiaires. Ici, la différence, c'est que les communautés sont non seulement de bénéficiaires, oui, mais ils sont des acteurs dans la mise en œuvre de ces projets.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Papi Mboyo nous appelle depuis la ville de Mbandaka. Bonjour, Papi. Allô? Voilà, nous parlons du projet Star Est, voilà, stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Madame Brigitte Kanika est en train de nous parler de réalisation de ce projet. Voilà, une autre question, Madame Brigitte, est de savoir, bon, aujourd'hui, voilà, il est en ligne maintenant, voilà. Papi Mboyo, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute.
Bonjour à la dame.
Bonjour.
Avant de commencer, je voudrais dire que monsieur Jody, j'ai fait un petit constat, de dire qu'aujourd'hui nous sommes bénis dans votre figure. On a toutes les femmes qu'on reçoit aujourd'hui, c'est que. Quand on reçoit une maman, c'est que c'est une bénédiction.
Voilà, on est bénis aujourd'hui.
Oh, bah oui. Mmh.
C'est bien.
Ok, Catherine Etienne, le sujet aussi, il est intéressant. Il dit qu'aujourd'hui, l'Est du pays nous pose énormément de problèmes, des soucis graves. Et quand on a un sujet qui concerne cette partie du pays, vraiment, ça nous touche à cœur, parce que nous compatissons souvent avec les gens-là, et nous nécessiterons de dire un mot. Mais j'aimerais aller tout droit dans les petits soucis pour demander à la dame si elle nous explique. La première question est celle de savoir quel est le but du projet qu'elle nous éclaire et quels sont les avantages de ce projet dans ce coin du pays. De un, et de deux, que la dame nous dise le type du projet. Le projet, c'est un micro-projet, c'est un méga-projet, donc elle arrive à nous donner la taille du projet, quoi. Ceci aussi pourra nous aider. Et de trois, j'aimerais demander de l'impact. Quel est cet impact sur le terrain de ce projet que la dame va devoir éclairer à l'antenne? Et pour terminer, monsieur, je dis, on aurait demandé à la dame quel bilan fait-elle à mi-parcours de ce projet. Et pour chuter à cette série de questions, j'aimerais que la dame nous explique qu'est-ce qu'elle propose pour un sujet au gouvernement pour l'accompagnement de ce projet pour que ça soit un peu pérennisé. Voilà au moins ce que je pouvais dire comme un mot, monsieur Jody. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce niveau du débat.
Bien, merci à vous. On va accueillir un autre auditeur, Chrysostome Lebakwa. Vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour.
Vous êtes à Arou, dans la province de l'Ituri. Quelle est votre question?
Effectivement, on attendait avec impatience le projet Star Est. On avait déjà élaboré même les plans d'action du développement. Et on ne comprend pas les acteurs du projet passé ici. Et là, vous avez suivi avec attention, madame a cité les territoires qui sont concernés dans la province de Ituri et elle a omis les territoires d'Arou. Ça nous étonne un peu et là, on voit que le projet est en train de migrer dans d'autres provinces. On aimerait un peu savoir ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse retenir Arou. Et pourtant, on les attendait, on avait même élaboré les plans d'action. On avait déjà nos besoins, on attendait juste le financement. Madame peut nous expliquer pourquoi on a écarté Arou?
Bien, merci beaucoup. Madame Brigitte, à vous la parole.
Ok, merci beaucoup. Merci à monsieur qui a posé la question à partir du Mbandaka.
Papi Mboyo.
Mm-hmm. Bonjour, monsieur Papi Mboyo. Il a demandé premièrement quel est le but du projet. Nous avons dit un attrait de la matière. Pour ce qui concerne l'émission, nous avons dit que le projet, comme son nom l'indique, c'est le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes le projet de stabilisation et de relèvement de la RDC. Le but de ce projet est de pouvoir stabiliser et relever les communautés qui ont été victimes de conflits armés ou de conflits intercommunautaires. Ça, c'est le but ultime de ces projets. Mmh. Par rapport au type de projet, il a demandé, c'est un micro, un méga et un quoi encore.
Voilà, quelle est la taille de ce projet?
Ben, je ne sais pas, c'est à vous de définir, monsieur Mboyo, c'est à vous de définir la taille de ces projets. Ces projets ont un budget de 250 millions. Je pense que vous pouvez en définir la taille.
Quel est l'impact de ces projets sur le terrain?
Nous pouvons vous rassurer que le projet a déjà eu plusieurs impacts. Premièrement, le projet a déjà touché plus de 795 000 personnes directement. Dans ces sensibilisations, dans la mise en œuvre des activités, aujourd'hui, 795 000 personnes ont déjà été touchées par le projet. Nous avons déjà travaillé avec 212 communautés vulnérables sur le 880 qui sont attendues par le projet. Pour ce qui concerne les infrastructures dont nous avons parlé tout à l'heure, à ce jour, nous avons déjà construit et nous sommes en train de les remettre au gouvernement 34 infrastructures dont 29 écoles et 6 centres de 5 centres de santé. Et nous allons commencer très bientôt l'adduction en eau potable pour 8 communautés. Et au-delà de ça, nous avons débuté un jour d'aujourd'hui 72 autres infrastructures socio-économiques de base, dont les écoles, le centre de santé, le marché, les salles polyvalentes. Nous avons déjà lancé les activités. Ça commence déjà à sortir de la terre. Et de routes dessertes agricoles. Parce qu'il y a un élément important dont nous avons, je n'ai pas parlé quand nous avons commencé l'émission. Nous voulons aussi relier les communautés ensemble par le moyen des communications qui sont les routes des dessertes agricoles. Et en ces jours, nous avons déjà lancé 164 kilomètres de routes des dessertes agricoles qui sont déjà en plein chantier. Mmh. Et d'ailleurs.
Et c'est où là?
En Nord-Kivu. Et en Ituri. En Nord-Kivu, c'est le gouverneur militaire Somo qui a lancé les travaux il y a de cela un mois. Et au niveau de l'Ituri, il y a 3 semaines qu'on a lancé les travaux. Et nous avons.
La route va relier le Nord-Kivu et l'Ituri, c'est ça?
Non. Nous ne sommes pas dans les routes qui relient les provinces. Nous sommes dans les routes des dessertes agricoles.
OK.
Et comme pour le moment, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied dans les deux provinces, nous avons d'abord lancé les routes dans les deux provinces, au niveau de l'Ituri, du Nord-Kivu, et au niveau de l'Ituri. Et il y a encore 162 kilomètres dont les études sont déjà vont commencer bientôt, que nous allons lancer au début de l'année. Donc, de façon ramassée, et au niveau, toujours nous sommes, je suis en train de répondre à la question de notre ami Mboyo de Mbandaka.
Oui.
Toujours au niveau des résultats obtenus.
Les bilans à mi-parcours.
Nous devons dire que nous avons redynamisé 116 comités locaux de développement. Nous avons redynamisé ou créé, comme j'ai à le dire, pour chaque infrastructure que nous mettons en place, il y a les comités de développement pour surveiller cette infrastructure-là.
C'est le comité de paix et développement.
Nous avons 2 comités. Nous avons les comités locaux de développement. Nous avons les comités locaux de paix et développement.
OK. Et puis, il y a aussi les comités consultatifs.
Les comités consultatifs, c'est au niveau des provinces.
Provincial, d'accord.
Voilà, c'est au niveau des provinces. Et au niveau du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, il y a eu 8000 kits PEP qu'on a donné aux femmes qui ont été victimes de viols. Nous avons eu à faire plus de 200 opérations, opérations gynécologiques pour les femmes qui ont été victimes de viols, des fistules, des prolapsus et tout ça. On l'a fait sur plus de 200 femmes au niveau des Goma et au niveau de Bukavu. Et là, nous travaillons avec la Fondation Panzi, nous travaillons aussi avec Il Africa pour toutes ces opérations-là. Et plus de 10 000 femmes sont accompagnées pour ce qui concerne les violences basées sur le genre. Donc, de façon ramassée, nous avons vraiment évolué.
Oui.
Nous pouvons dire qu'à ce jour, on a pu quand même avancer malgré la situation. Parce que comme j'ai eu à le dire,
la crise sécuritaire.
Oui, comme j'ai eu à le dire, c'était un projet qui était basé à Goma, avec la situation de guerre. On a dû sortir en catastrophe. On devait se redéployer et puis
voir
comment.
Vous avez tout arrêté là-bas, hein, j'imagine.
Oui, en tout cas pour la ville de Goma, nous n'y travaillons pas parce que c'est un projet du gouvernement. nous n'avons l'autorisation de travailler que dans les zones sous contrôle du gouvernement national.
D'accord. Alors la question
Oui. Comme j'ai dit, oui. Toutes les femmes victimes de viols et de violences, nous ne les avons pas abandonnées. Nous continuons à travailler uniquement avec cette catégorie de population.
D'accord. L'auditeur de Harou nous dit que vous n'avez pas cité Harou et pourtant il y avait aussi des interventions prévues pour
Harou. Exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Harou a été oublié, écarté ou quoi?
Non, Harou n'a pas été écarté, mais Harou n'avait pas été retenu déjà au départ du projet. Je m'explique. Je vais aller dire ici que ce projet est l'émanation de 3 gouverneurs. Et pour commencer un projet, il y a des consultations. Il y a des consultations avec les communautés. Il y a les consultations avec les décideurs. Il y a les consultations avec la société civile. Et ce sont ceux-là qui définissent les priorités et les zones d'intervention.
Oui.
Et dans le cadre de ces projets, nous n'avons pas cité Harou parce que Harou n'avait pas été retenu au départ pour ces projets ici. C'est comme ça que j'ai cité. Pour ce qui concerne l'Ituri, nous avons la ville de Bounia, nous avons Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa. Ce sont les 4 territoires plus la ville de Bounia qui ont été retenus.
Mmh.
Et jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait restructuration, nous n'avons pas l'autorisation d'aller au-delà. Nous comprenons que c'est un besoin. Nous sommes conscients que c'est un besoin pour que Harou soit intégré. C'est la même chose avec les autres provinces. Nous n'avons pas pris toutes les provinces, nous avons pris juste certains territoires.
Mmh.
Mais cela ne veut pas dire que ces territoires-là où nous n'intervenons pas directement, ils ne seront pas bénéficiaires des activités du projet. Ils sont bénéficiaires de façon indirecte, par leurs routes par exemple qui vont relier les communautés. Ils en seront aussi bénéficiaires parce qu'ils vont utiliser ces routes-là.
Mmh.
Mais aussi, selon le besoin et selon le moyen, le projet peut toujours être étendu, si le moyen le permet, dans les provinces qui n'avaient pas été retenues au départ de l'élaboration de ce projet.
Bien, Madame Brigitte, vous avez parlé d'une nouvelle donne pour ce projet. Il va s'étendre maintenant à l'ouest du pays et dans 3 autres provinces. Cela n'est pas une façon de laisser tomber les 3 premières provinces de l'Est pour lesquelles le projet a été mis en place.
En tout cas, merci beaucoup, M. Jody, pour cette question. Je pense que c'est la question d'actualité. Parce que nous sommes en train de recevoir des lettres. Dernièrement, il y a eu même une lettre qui a été adressée au président de la République pour dire que non, le Star Est est en train de détourner
les fonds.
est en train, non, pas les fonds.
Son objectif principal.
Mmh. Non. Nous n'avons pas l'intention de pouvoir délaisser les provinces d'origine de ces projets.
Oui.
Mais seulement, j'aimerais, et ça vraiment, j'en appelle à nos auditeurs qui sont dans l'est du pays pour leur dire ceci, qu'ils m'écoutent attentivement. Le Star RDC n'a pas abandonné le province de l'est. Nous sommes en train de nous déployer d'ajouter des provinces, pas de quitter les provinces premières. Nous sommes en train d'ajouter d'autres provinces pour autant que il y a beaucoup de provinces en RDC qui ont connu les mêmes problèmes, peut-être à moindre échelle que les problèmes qui se passent à l'est. Nous avons le cas de l'ancien Bandundu avec le phénomène Mobondo,
mm-hmm,
qui continue jusqu'aujourd'hui. Nous avons le Tanganyika avec les conflits Touabantou. Ce sont des conflits qui ont amené des milliers et des milliers de
qui
personnes
ont endeuillé des familles,
de quitter leur milieu d'origine. Ça a endeuillé des familles. Nous avons les conflits de Kamuna-Nsapu au niveau de Kasaï. Nous avons les conflits Bududia-Congo dans le Bas-Congo, dans le Congo central.
Oui.
Et tous ces conflits-là rentrent dans la mission du Star RDC qui est de relever les communautés et surtout et surtout d'amener les communautés à vivre ensemble et en harmonie. C'est ça l'ultime mission des Stars RDC. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mener des activités au niveau du Nord Kivu. Nous sommes au niveau, nous travaillons à Beni. Les activités sont menées normalement. C'est vrai que dans les provinces qui sont occupées, nous n'avons pas l'autorisation jusque-là de pouvoir y intervenir, sauf pour la prise en charge de femmes violées, de femmes et de filles et des hommes victimes de violences sexuelles. Il n'y a que cela pour lequel
seulement
nous travaillons pour aujourd'hui.
Mais pour les autres...
Le Star RDC, c'est un projet du gouvernement congolais. C'est un projet du gouvernement congolais et nous recevons des orientations du gouvernement. Nous ne pouvons pas dire, parce que comme c'est un projet décentralisé, ce qui veut dire un projet décentralisé, c'est que nous travaillons au niveau de la base. Nous rendons compte au gouverneur, nous rendons compte à l'administration provinciale. Si nous travaillons, je prends un exemple, si nous travaillons dans les zones occupées, à qui est-ce que nous allons rendre compte? Ce n'est pas dit, je répète encore une fois, ce n'est pas dit que nous avons abandonné ces villes-là. Je prends l'exemple particulier du Sud Kivu. Dans le Sud Kivu, je vous ai dit que nous devrons travailler à Bukavu, à Calais, à Fizi, à Mwenga et à Shabunda. Une partie du Calais est occupée. La partie de Fizi est inaccessible. Shabunda mêmement, Mwenga mêmement. C'est ce qui fait que nous avons du mal à pouvoir y travailler.
Oui.
Mais nous n'avons pas abandonné. Et je pense que j'en discute régulièrement avec les autorités provinciales pour leur expliquer la situation actuelle. Comment est-ce que, pour amener le matériau de construction, je prends l'exemple de Shabunda. Pour amener le matériau de construction
c'est
à Shabunda...
C'est un grand territoire du site Kivu.
C'est un grand territoire.
Mais enclavé.
Enclavé. Au départ, quand nous avons commencé le projet, nous en avions discuté même avec le gouverneur. Le gouverneur nous avait rassuré que nous devons utiliser de fois les avions des autres partenaires pour amener le matériau. Aujourd'hui, l'aéroport n'est pas opérationnel. Comment est-ce qu'on peut amener les matériaux? Donc, ce sont les difficultés qui ont fait que pour le moment, il y a certaines zones dans lesquelles nous ne pouvons pas travailler. Et encore, le projet ici, comme j'ai eu à le dire, c'est les fonds du gouvernement via son partenaire, la Banque mondiale. C'est un crédit. Et un crédit, nous devons le savoir, ça court dans le temps, ça court dans l'espace. Quand vous avez un financement comme ça. À partir du jour où l'accord a été signé, nous sommes au 31 novembre 2023, le compte à rebours a commencé. Et ce projet va se terminer au 31 décembre 2027. Si nous ne pouvons pas mener les activités, si on ne sait pas utiliser l'argent qui est déjà mis à la disposition, cet argent-là va aller ailleurs. C'est ça le principe. C'est ce que les auditeurs, c'est ce que le Congolais, nous devons savoir. Et pourtant, nous avons des provinces qui sont dans les mêmes problèmes. Et cette demande avait été formulée avant même qu'il y ait les conflits armés à l'Est, par Madame le Premier ministre, qui avait demandé au projet et à la Banque mondiale ainsi qu'à son gouvernement bien sûr, de pouvoir voir comment étendre les activités dans d'autres provinces. Nous n'avons pas abandonné, nous avons seulement étendu les champs d'action. Et les activités continuent à se mener dans le coin où on a la possibilité de le mener au niveau de l'Est du pays.
Alors maintenant, quelles sont les autres provinces que vous venez d'ajouter par rapport au projet?
Pour le moment, nous allons travailler dans le Kwango, dans le Kwilu et dans le Maïndombe, toujours avec les phénomènes Mobondo, qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui à faire des victimes. Et c'est les trois provinces que nous venons d'ajouter. Je veux vraiment que les gens comprennent. Nous venons d'ajouter dans les projets sans pour autant
abandonner les autres provinces. Alors, qu'est-ce qui sera exécuté? Quels sont les projets que vous allez implémenter là-bas, dans les Kwango, le Maïndombe et dans les Kwilu?
Pour autant que le projet actuel n'a pas changé son objectif primordial, nous allons travailler toujours dans le même cadre. Donc, nous allons mettre en place les infrastructures socio-économiques des bases. Nous allons réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Nous allons appuyer le gouvernement provincial pour l'amélioration de leurs recettes. Et nous allons aider aussi les communautés avec les activités génératrices de revenus. Et bien sûr, là où il y a conflit, il ne manque jamais de victimes de violences basées sur le genre. Nous allons continuer à appuyer ces victimes-là.
Mais est-ce que déjà au niveau de ces trois provinces-là, vous avez déjà mis en place les comités locaux de développement et les comités de paix, voilà, comme vous l'avez fait dans les autres provinces?
Non, nous ne l'avons pas encore fait parce que nous attendons d'abord les quitus du gouvernement avec la Banque mondiale, parce que c'est une restructuration. À chaque fois que vous changez quelque chose dans le projet, il faut changer les accords. Et dans la phase actuelle, on est en train, les deux partenaires sont en train de travailler sur les accords, sur la révision des accords. Mais seulement, nous avons déjà commencé le sensibilisation, surtout les prospections. Et là, je remercie les trois gouverneurs de ces provinces qui ont été vraiment proactifs.
Nous avons déjà eu des échanges.
C'est pour cela que j'ai dit que je les remercie. Parce que en tout cas, s'ils ne viennent pas dans nos bureaux, s'ils ne se déplacent pas pour venir dans nos bureaux pour en savoir plus, ils nous appellent toujours pour savoir quand est-ce que nous allons commencer dans ces trois provinces, parce que c'est un besoin réel de leur population.
Bien, on va accueillir l'ingénieur Achille de Lubumbashi et puis Thomas Ougeni de Bounia. Ingénieur Achille, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole. Alors, je voudrais que la dame, quand elle va prendre la parole, qu'elle nous dise si toutes les activités qu'elles sont en train de mener peuvent être vérifiables quelque part sur un site internet. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a eu plusieurs activités, plusieurs projets qui ont été, après, il y a les gens qui passent dans des radios, ils disent avec des bons français, de très bons discours. Donc, quand vous allez sur le terrain, il n'y a rien du tout. Alors, nous voulons savoir si toutes ces activités-là, on peut vraiment les vérifier. Et de deux, je voudrais appeler la dame parce que bon, elle est responsable, je pense, à la bonne foi, parce que vous savez, quand vous avez des projets pareils, ça doit normalement profiter à la population concernée. Et vous allez vous contenter du salaire, peut-être aussi du prêt. Il ne faut pas aller au-delà, parce que vous savez, les populations là sont en train de souffrir. Ok, quand vous avez des responsabilités pareilles, donc vous devez vraiment faire preuve que c'est vous. Faites comme si c'était vous qui subissez, n'est-ce pas? Comme si c'était votre enfant aussi qui était dans cette vulnérabilité-là. Donc, la bonne foi et surtout l'amour de ce pays pour que ce projet-là puisse vraiment s'accomplir.
Merci. Bien, merci ingénieur Achille. Thomas Ougeni, vous êtes à Kisangani et non à Bounia. Bonjour.
Bonjour monsieur. Monsieur Tardy, bonjour à madame l'invité et c'est à tous les auditeurs de la radio Compi.
Oui cher Thomas,
je m'avais directement aux questions. La première question c'est par rapport à la gestion de ces fonds de 4 millions de dollars. Je ne sais pas, les fonds ont été utilisés conformément au plan initial. Ça, je pose d'abord la question à madame l'invitée. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est l'invité pourra nous dire quand assez. Et il y a aussi, quels sont en tout cas les mécanismes de contrôle et de redevabilité qui ont été mis en place. Parce qu'on sait qu'il y a des détournements et constats. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a la transparence dans tout ça? Ça, c'est la deuxième question que j'aimerais poser à madame l'invitée. La troisième question, parce qu'on prend également la province du Kwilu, qui se trouve à l'ouest, je ne sais pas, quelle leçon tirer de la mise en œuvre dans l'est pour améliorer les situations dans l'ouest? Parce que madame l'invitée venait à peine de dire qu'on a élargi cet aspect des choses, on va te tourner vers la province de l'Ouest, là-bas, les provinces de l'Ouest, pardon. Je ne sais pas quelles sont les leçons qu'on a à tirer à l'Est, qu'on pourra améliorer l'intervention qui sera bientôt là, dans la province, dans ces deux provinces-là de, qui se trouvent à l'Ouest. C'est pas ça, mais quelques préoccupations que j'avais à Madame Lévito.
Bien, merci Thomas, depuis Kisangani. Madame Saouda Kapinga, à vous la parole.
Merci beaucoup. Ingénieur Achille a posé la question de savoir si toutes ces activités sont vérifiables, parce que souvent on peut faire, on peut parler du bon français, mais à l'intérieur,
il n'y a rien.
À l'intérieur, il n'y a rien. Merci beaucoup, Ingénieur Achille. Vous savez, cet argent a été disponibilisé par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, comme vous le savez, c'est la première banque, hein, comme le nom l'indique, au niveau du monde. Donc, elle met tout le mécanisme possible pour pouvoir vérifier que l'argent qu'il a donné au pays n'est pas premièrement détourné et est utilisé pour le besoin de la cause. Le premier mécanisme que je citerai ici, nous avons un outil que nous appelons Kobo Collect et aussi Kobo Tools. Cet outil-là nous sert à quoi? Nous sert à chaque fois qu'il y a une activité. J'ai dit par exemple que je vais construire une école à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, localisation ITEX Africa.
Oui.
Je me mets là sur ITEX, là où on est en train de construire. J'enregistre le coordonnées. Cet outil-là permet à quelqu'un qui est à Washington de pouvoir suivre cette école-là à temps réel. Donc
il peut suivre l'évolution des travaux.
Il peut suivre l'évolution des travaux à temps réel à partir de Washington.
Okay.
Donc, c'est pas dit que je vais écrire pour dire aujourd'hui tout est digitalisé, hein. C'est pas comme avant où on prenait les photos, on envoyait. Non, aujourd'hui quelqu'un qui se trouve dans n'importe quel coin du monde, il peut avoir des images de n'importe quel coin, et nous avons l'obligation d'enregistrer chaque lieu où nous sommes en train de travailler, et ça ressort directement dans cet outil, et quelqu'un qui est n'importe où
peut suivre en temps réel.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que chaque 3 mois, la Banque mondiale, le gouvernement congolais font le suivi des activités. Pas seulement sur le papier, ils se rendent sur le terrain pour vérifier tout ce que nous faisons. Donc, tout cela mis ensemble nous amène à ne pas aller à l'encontre de ce qui a été prévu. Deuxième élément, l'ingénieur demande notre bonne foi. merci beaucoup ingénieur, je pense qu'il en va de soi. Ce n'est même pas à demander. Parce que nous avons non seulement une réputation à sauvegarder, mais nous avons aussi une carrière. Nous avons plusieurs années, plus d'une décennie d'expérience avec la Banque mondiale. Et je pense que ici, dans le poste que nous avons, ce ne sont pas des nominations, mais c'est par concours qu'on y arrive, qu'on y accède. Et non seulement par concours, par expérience aussi, parce que vous ne pouvez pas arriver là où vous êtes si vous n'avez pas de probité morale, et si aussi les activités que vous faites sur le terrain, la gestion qui pourra vous être confiée peut être mise à mal.
Donc il peut se rassurer, il n'y a pas de risque de détournement.
Il n'y aura pas de risque. Il n'y aura pas de risque. Et là, je réponds directement à la question de M. Thomas Ougeni
de Kisangani,
qui a posé la question sur la gestion de fonds. Comment c'est utilisé? Nous avons tout le mécanisme possible. M. Thomas, je peux vous rassurer que madame que vous voyez, qui est devant ces micros.
Et que les internautes suivent en direct sur...
n'a pas l'autorisation de toucher même $10 de de l'argent de ces projets. Je peux le rassurer aussi que quand il s'agit d'un paiement, tout paiement qui dépasse 100 dollars est payé par la banque. Ce n'est pas un paiement que je peux faire, mais décider dans mon bureau et le faire. Deuxième verrou, c'est que la signature n'est pas ma signature personnelle. Nous avons des signatures conjointes, même si la dernière décision appartient au coordonnateur que je suis. Troisième mécanisme, tout montant qui dépasse 100 000 dollars n'est pas payé par le projet. Il est payé directement par la Banque mondiale à partir de son siège. Donc, tout cela mis ensemble, ça nous empêche de détourner, à moins que je détourne moins de 100 dollars, et il faudra en détourner combien?
C'est ça, beaucoup de verrous, beaucoup de mesures de sécurité.
Beaucoup de mesures de sécurité pour qu'on ne puisse pas être tenté. Le mécanisme de contrôle, je pense que j'en ai déjà parlé, et nous avons tous les 3 mois, nous avons les auditeurs internes et chaque année, nous avons l'audit externe. Et la dernière question, il a posé, c'est pour savoir, les provinces de l'Ouest, quelles sont les leçons tirées?
Leçons à tirer par rapport à ce qui a été fait à l'Est?
En tout cas, il y a plusieurs leçons à tirer. La première leçon, et ça, c'est ce que nous avons trouvé vraiment la plus grande, c'est que quand vous êtes en train d'élaborer un projet, surtout dans des milieux instables, il faut toujours avoir les plans A, les plans B et les plans C. Ça, c'est vraiment une leçon que nous avons tirée. Et la deuxième leçon, c'est que quand les communautés sont non seulement bénéficiaires, mais aussi acteurs de son propre développement, vous avez beaucoup plus de chances que votre projet réussisse. Et c'est cette approche avec laquelle nous sommes en train de travailler à l'Ouest, tout en impliquant du début jusqu'au suivi les autorités provinciales, parce que nous avons eu à les dire que ce projet, c'est un projet décentralisé, ce qui voudrait dire que le premier interlocuteur de ces projets, ce sont les gouverneurs. Voilà,
c'est joli. Voilà, maintenant, pour les 3 provinces, est-ce qu'il y a la ville de Kinshasa aussi a été... Voilà, était parmi les provinces bénéficiaires ou bien c'est seulement les provinces, les 3 que vous avez citées tout à l'heure?
Oui, au départ, quand nous avions pensé restructuration, on pensait qu'on allait travailler dans la ville de Kinshasa, mais malheureusement ou heureusement, on n'a pas pu parce que déjà la ville de Kinshasa bénéficie de plusieurs autres projets et nous avons pensé avec l'appui du gouvernement et de la Banque mondiale pouvoir aller là où le besoin est encore plus criant que dans la ville de Kinshasa.
Bien, donc quand est-ce que vous allez lancer certainement l'année prochaine dans les Kwango, le Kwilu, le Maïndombe?
Oui.
Quelle période? Est-ce qu'on connaît déjà la période de lancement?
En tout cas, le plus tard possible, c'est le mois de février. C'est plus réaliste, le mois de février, parce que, comme vous le savez, d'ici les 15, beaucoup d'organisations, ils vont aller en vacances. Et la majorité rentrerait entre le 10 et le 15
mi-janvier,
janvier, donc
oui.
Mi-janvier. Mmh. Et le temps que nous puissions réunir tous les documents et autres, nous serons déjà au mois de février. Et nous, dans notre agenda, nous nous sommes fixés le mois de février comme le début des activités, mais avant les activités de terrain, nous avons les activités préparatoires. Nous avons les instruments de sauvegarde environnementale et sociale. Et ces instruments-là, nous allons commencer à les élaborer déjà en ce mois de décembre. Nous sommes déjà dans leurs élaborations pour là où ça demande de certains instruments et l'actualisation là où il faut actualiser.
Et vos équipes descendent déjà sur terrain?
Nos équipes ont commencé la descente depuis le mois de novembre. Déjà au mois de novembre, nous étions sur le terrain dans les 3 provinces.
Voilà, donc ce sont les mêmes projets qui seront menés dans les 3 provinces. Vous avez parlé de les routes des dessertes agricoles, les infrastructures sociaux de base et puis l'appui aux femmes victimes de viol.
Nous avons quatre composantes. Mmh. Nous avons six composantes et ce sont les six composantes qui vont être lancées de l'autre côté. Comme nous avons dit que nous n'avons pas changé l'objectif du projet, l'objectif est resté le même et donc nous allons travailler de la même façon que nous travaillons à l'Est, c'est la même façon que nous allons travailler à l'Ouest.
Alors comment est-ce que les communautés de ces trois provinces peuvent déjà commencer à se préparer à accueillir ces projets?
Déjà, parce que quand nous allons commencer les consultations populaires, il faudra que les communautés sachent déjà d'avance de quoi ils auront besoin. Mais ici, nous devons attirer l'attention parce que il y a dans d'autres coins où les gens vont vous dire, ben nous avons besoin d'une école. On vous demande une école, mais dans l'entretemps, il y a la mortalité infantile due au manque d'eau potable. Vous rencontrez qu'il y a beaucoup de maladies hydriques, mais la population vous dit que notre priorité, c'est une école.
C'est une école.
Tout simplement parce qu'ils ont entendu qu'il y a une communauté autre qui sera qui bénéficiaire d'une école ou qui est bénéficiaire d'une école. Voilà. Et là, nous, en tant que projet, nous avons aussi le devoir de pouvoir orienter les communautés pour leur dire que non, c'est vrai que c'est une priorité, mais nous voulons la priorité des priorités selon ce que nous allons voir aussi sur le terrain. Mais des fois, nous aimons les copier-coller parce que partout, on parle d'école, on parle des centres de santé. Tout le monde vous dit... Moi, il y a une anecdote dans une des provinces où nous sommes allés. La communauté nous a demandé une morgue. On nous demande une morgue, mais ils n'ont pas d'hôpital.
Ah oui?
Ils n'ont pas d'abord d'électricité, mais on nous dit non, nous avons besoin d'une morgue. Bon, je pose la question. Vous avez combien de morts par mois? Bon, des fois on fait même 3 mois, il n'y a aucun mort.
Il n'y a pas de décès.
Est-ce que vraiment la morgue, c'est une des priorités? Donc tout ça là, il faudra que la population commence déjà à y réfléchir sur les priorités des priorités, parce que comme vous le savez, contrairement aux provinces de l'Est, les provinces de l'Ouest n'ont pas beaucoup d'interventions de partenaires. Et donc ça, c'est une aubaine en fait, qu'ils puissent saisir la balle au bon pour pouvoir se dire, ben c'est une chance que nous avons de pouvoir avoir ces projets pour que les priorités de priorités qui rentrent dans les objectifs du projet puissent se matérialiser.
Alors, comment vont se passer les consultations populaires que vous allez lancer dans ces trois provinces-là? Ce sera des rencontres avec les notables ou avec toute la population où recueillir les idées des uns et des autres?
Nous faisons les consultations, comme Cheyi allait dire, consultations populaires. Il n'y a pas que les notables. Ce sont toutes les... Donc, nous passons village par village. Nous passons village par village et nous appelons toute la population et nous discutons d'abord dans la salle. On explique ce que nous voulons faire. On explique quelles sont les procédures que le projet met en place. Et puis, nous les laissons discuter entre eux. Et puis, ils vont revenir maintenant dans la salle nous dire que voilà, pour notre communauté, nous avons décidé ça. Comme j'ai allé dire, nous aurons 880 communautés à toucher directement. 880 communautés qui vont bénéficier des infrastructures. Parmi les infrastructures, les routes de dessert agricole aussi en font partie.
Et comment se fait la sélection des partenaires de mise en œuvre?
Par appel d'offres.
Il y aura des appels d'offres.
Toujours. Toute activité que nous faisons, il y a appel d'offres et je conscientise la population, je conscientise déjà les acteurs économiques de ces trois provinces qui sont dans les constructions, dans l'offre des services, de consulter régulièrement Média Congo parce que nous passons par Média Congo mais nous affichons aussi dans les provinces, dans le bureau de province, de communes, ainsi de suite.
Madame Brigitte Kapinga Saouda, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du général du projet des stabilisations et des relèvements de la RDC. Ce n'est plus de l'Est seulement, mais de la RDC.
La RDC.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée, bon anniversaire et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.